Vous écoutez, on lit pour vous.
Réseaux sociaux, c'est le monde des adultes qui a vendu ça aux enfants. Une citation en tête d'un texte titré « L'impact des médias sociaux », signé Tristan Péloquin et François Roy, dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse, publiée dans l'édition de ce journal du 31 janvier 2026. En sous-titre, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de Suède, Jakob Forssmed, a commandé à son agence de santé publique une grande étude sur l'impact des habitudes numériques des adultes sur la santé des enfants. Entrevue. C'est quand même paradoxal qu'un pays aussi connecté que la Suède, qui a donné naissance à Spotify et à Candy Crush, soit un des premiers à se pencher sur les habitudes numériques des adultes. Quand on a commencé à s'y intéresser, j'ai reçu beaucoup de critiques de gens voyant en moi un autre homme d'âge mûr en pleine panique morale, comme on en voyait dans les années 1950 avec l'arrivée des comics books ou dans les années 1980 avec l'apparition du heavy metal. Mais la différence, c'est que les comics et la musique, c'est les enfants qui poussaient leur développement et ce n'était pas nocif. Les réseaux sociaux, c'est le monde des adultes qui a vendu ça aux enfants. On leur a dit, « Tiens, utilise cet iPad, regarde ce téléphone. Ils sont très divertissants. » Fin de citation. Ce faisant, on a empêché les enfants de faire du vélo, de jouer dans la forêt. Vous avez organisé un forum d'experts à Bruxelles où les pays scandinaves ont annoncé leur alignement avec l'Union européenne pour forcer les médias sociaux à plus de transparence. La Suède est-elle à l'aise avec cette position? Il le faut. Les médias sociaux sont des entreprises les plus grandes et les plus puissantes au monde. Citation, il faut utiliser la force de frappe que nous avons avec l'Europe pour faire pression contre les algorithmes qui sont vraiment néfastes et qui mènent tant les enfants que les adultes vers des contenus de plus en plus extrêmes et addictifs. Fin de citation. Votre gouvernement a annoncé en 2023 l'abandon de sa stratégie nationale de numérisation de l'éducation. Était-ce une erreur d'aller aussi loin? C'était manifestement une grosse erreur. C'est nous qui avons introduit les réseaux sociaux dans le curriculum des enfants d'âge préscolaire. Ellipse, mais à une époque où c'était principalement des outils pour communiquer entre amis. Ils étaient utiles à ce moment-là, mais ils ont évolué vers une autre chose. Si on les renommait aujourd'hui, on ne les appellerait certainement pas médias sociaux. Ce sont des technologies qui choisissent à notre place, qui n'aident pas à comprendre le monde et qui nous empêchent de lâcher nos téléphones. Pensez-vous vraiment pouvoir contrôler ces entreprises? Bien sûr que nous pouvons changer les choses. La Suède était autrefois un pays où l'alcool faisait des ravages dans toute la société. Je ne fais pas une comparaison directe entre les deux problèmes, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la réglementation, nous pouvons changer les choses. Fin de ce texte titré « L'impact des médias sociaux », citation, c'est « Le monde des adultes qui a vendu ça aux enfants », texte de Tristan Péloquin et François Roy, rédigé dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse et publié dans l'édition du 31 janvier 2026, de ce journal.
Êtes-vous un patron hélicoptère? Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 2 décembre 2025 dans La Presse. Nous pouvons intuitivement comprendre les dérives de ce qu'on nomme le parent hélicoptère. Il plane au-dessus de son enfant et s'implique dans chaque aspect de sa vie, allant jusqu'à étouffer sa liberté et nuire au développement de son autonomie. pourrait-on faire le parallèle avec le micro-manager qui serait en fait le patron hélicoptère? Qu'est-ce qui est le plus stressant, être gestionnaire ou employé? Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences avait fait la démonstration, surprenante pour certains, que les employés étaient plus stressés que leurs patrons. En effet, si les gestionnaires exerçaient des responsabilités plus importantes, ils avaient aussi plus de contrôle. Et ce sentiment de contrôle est relié à une diminution du cortisol, hormone du stress. C'est comme conduire dans une tempête de neige. Bien que ce soit assurément stressant, ce l'est souvent beaucoup moins que d'être passager dans la voiture. Il en va de même en entreprise. Alors que les salariés affrontent différents défis et les tempêtes du monde du travail actuel, être réduit à être sur le siège arrière, alors que vous avez pourtant le sentiment de mieux connaître les particularités de la route devant vous, est sans contredit très drainant et mène à une perte de sens. Le manifestement déraisonnable. Historiquement, la Cour suprême du Canada intervenait uniquement quand elle considérait qu'une décision d'un tribunal inférieur était manifestement déraisonnable. Cela permettait d'éviter qu'elle s'implique à tout bout de champ dans tous les dossiers. J'imagine très bien ce concept s'appliquer aux gestionnaires. Pourquoi ne pas intervenir uniquement lorsque la situation l'exige réellement et qu'il y a un enjeu important plutôt que de se mêler de tout? Un PDG m'a d'ailleurs raconté utiliser la règle du pouce des 20%. S'il croit qu'il ne peut pas améliorer le travail d'une personne de plus de 20%, il s'abstient de commentaires, étant bien conscient que cela pouvait parfois être contre-productif. Le célèbre YouTuber MrBeast a d'ailleurs dit la même chose. Il évite de donner des directives trop claires à ses équipes, car elles reproduiront à la lettre ce qu'il demande, risquant ainsi de réduire l'innovation qui a caractérisé son succès. Une définition toute récente. Si la micro-gestion aide toutes les conversations dans les cafétérias d'entreprise, il est surprenant de constater que les chercheurs s'y sont peu intéressés jusqu'à tout récemment. Une recherche publiée en 2025 dans le Journal of Management vient répondre à cette lacune en définissant le concept et ses conséquences. Celui-ci est défini comme un style de gestion caractérisé par un usage excessif du contrôle, une surveillance étroite et un souci exacerbé du détail. Un style de gestion axé sur la micro-gestion est corrélé positivement à l'intention de quitter l'entreprise et négativement à la performance en emploi. Si vous travaillez sous le régime d'un micro-manager et que vous avez déjà tenté de vous faire entendre sans succès, sachez qu'il est peut-être temps de penser à changer de travail. Le faible sentiment de contrôle au travail est lié à plusieurs problèmes de santé et prédit même la mortalité prématurée. Si vous êtes gestionnaire, vous ne vous sentez peut-être pas concerné par ce travers. La micro-gestion, c'est les autres. Mais est-ce que vos équipes diraient que vous interférez dans leur travail même lorsque ce n'est pas nécessaire? Que vous surveillez leur travail de près? Ou que vous vous enfargez dans les fleurs du tapis quand vient le temps de débattre de la taille d'une virgule? Peut-être vous dites-vous que vous n'êtes pas un micro-manager, mais seulement quelqu'un qui aime l'excellence, la rigueur et le travail bien fait. Mais en êtes-vous certain? Si vous avez découvert cet article déposé sous le pas de la porte de votre bureau ce matin, Peut-être est-ce un employé qui a voulu vous suggérer un petit moment d'introspection. C'était « Êtes-vous un patron hélicoptère ?» un texte de Jean-François Berthollet, paru le 2 décembre 2025 dans la presse. La pente glissante de l'éthique préventionniste. Un texte de Jean-Nicolas Carrier, publié le 10 janvier 2026 dans Le Devoir. Une fois par mois, Le Devoir d'éducation vous propose des contributions enrichissantes, qu'elles proviennent de chercheurs, de praticiens du milieu de l'enseignement ou d'autres personnes qui ont réfléchi à l'état de notre système d'éducation. L'année 2025 a été bien chargée pour le monde de l'éducation. Vouvoiement en classe, interdiction du cellulaire, augmentation du niveau de violence dirigée contre le personnel. Ce qu'on retiendra sera plutôt une affaire, en apparence insignifiante, concernant les buttes de neige dans les cours de récréation des écoles primaires. Une association québécoise d'assureurs scolaires s'est donné la mission d'encadrer l'usage des buttes de neige par les enfants durant la récré. Parmi les recommandations envoyées aux écoles du Centre de service scolaire des Chênes, à Drummondville, hauteur maximale de 3 mètres, pente ne devant pas dépasser 25%, zone désignée de remontée et d'attente, registre d'utilisation, plan de surveillance, etc. La nouvelle a fait vivement réagir. Certains ont lucidement vu en elle les excès des velléités thérapeutiques et préventionnistes d'un état nounou en perpétuelle mission pour s'immiscer toujours plus dans nos vies, ce qui entraîne du même coup une dévitalisation de l'enfance, de sa fougue, de son exploration insouciante du monde qui l'entoure. Nec plus ultra de l'absurde, ces intentions s'inscrivent dans la foulée d'une inflation réglementaire et thérapeutique irrépressible touchant le milieu scolaire depuis quelques années. Retenons que ce fait d'actualité est commode pour qui souhaite se placer, avec la foule vengeresse, du côté des détenteurs du bon sens. On connaît les coupables, les bureaucrates dans leur tour d'ivoire et aussi la profession enseignante, complice de zèle réglementaire et d'excès obsessif de contrôle. Une telle attitude nous prive toutefois de l'occasion que la situation fournit de réfléchir aux tendances historiques et sociologiques l'ayant rendue possible. Cette analyse visera donc à chercher la logique et le sens derrière l'aberration apparente. À partir de la pensée du sociologue Nicolas Rose, nous verrons comment cette affaire de la butte, loin d'être un incident isolé, représente le symptôme d'un glissement, d'un rapport pédagogique traditionnel à celui de la gestion actuarielle des risques sous l'égide d'une caste d'experts. Mutation. Dans un article publié en 1998 dans la revue Psychiatry, Psychology and Law, Rose a écrit qu'il voyait déjà poindre une profonde mutation du rôle des professionnels de la santé mentale. Passant de la prestation de soins à la gestion du risque, leur rôle ou utilité sociale a changé du même coup. Les administrations publiques auront vis-à-vis de ces professionnels des attentes différentes, employer leur expertise pour évaluer les niveaux de risque des individus. Cette demande adressée à la psychiatrie s'entend, selon le sociologue, comme une tentative de ramener le futur dans le présent, le rendre gouvernable en réduisant au maximum l'incertitude, contrôler et normaliser les populations jugées à risque. Une telle attitude, lorsqu'elle est appliquée à l'ensemble des élèves du Québec, nous entraîne naturellement dans de difficiles et complexes questions éthiques et politiques. Derrière l'intention de rendre la cour de récré plus sécuritaire, se trame un projet de problématisation de l'enfance en fonction du risque inhérent qu'elle représente du point de vue administratif. Une telle réduction des aléas de l'enfance au risque qu'elle présente tente de discipliner l'incertitude. L'objectif, la contrôler, au moyen de mesures de prévention élaborée et implantée par l'expertise et la technique en la rendant ordonnée et docile. Certains trouveront cela fâcheux. Les élèves d'une école primaire ne guident pas leurs actions selon le principe de précaution. Ils courent, se poussent, crient, s'injurient et jouent au roi de la montagne, souvent tout cela en même temps. Cette vitalité de l'enfance était bienvenue et même encouragée dans le monde d'avant la mutation prévisionnelle de l'école. On acceptait collectivement, du moins sur une base implicite et intuitive, qu'il y avait des risques inhérents et inévitables
liée aux activités hivernales, que le terrain était accidenté, que le risque zéro était illusoire. La butte de neige de 4 mètres présente davantage de risques que celle de 3. Gravir la butte avec pas de casque est plus risqué que le contraire. Et encore, la légende voudrait que le ballon chasseur soit plus risqué que la flûte à bec. De ce strict point de vue actuariel et assurantiel, il tombe sous le sens de restreindre à ce point les activités des enfants. Et voilà que ces petits êtres imprévisibles et par conséquent à risque pourraient nous causer de sales problèmes si on n'y voit pas. Principe. On entend déjà l'argument. Ces mesures ne viennent-elles pas de bonnes intentions? Or, c'est oublier l'aspect pernicieux, comme par inadvertance, de ces mesures s'appuyant sur les plus nobles et les plus généreux principes. Nicolas Rose a raison d'affirmer que le seul fait d'aborder les questions éducatives sous l'angle du risque suffit à le rendre contraignant. Ainsi, une fois qu'il est acquis, que les décisions du jour peuvent être éclairées par des calculs portant sur le lendemain, nous exigeons que les calculs portant sur le lendemain éclairent impérativement les décisions du jour. Selon une logique inflationniste se fortifiant dans son propre mouvement, la possibilité technique du calcul du risque entraîne l'exigence d'adosser ces questions normatives à de tels schèmes techniques, probabilistiques et actuariels. La pente de l'éthique préventionniste est des plus glissantes. La possibilité de calculer le risque ouvre l'avenue de la négligence pour quiconque ne le fait pas. Qu'il soit désormais possible de calculer le risque de façon actuarielle, mais tous les acteurs du réseau de l'éducation dans l'impossibilité de plaider l'ignorance ou encore de dire qu'il n'y avait rien que l'on peut faire. On connaissait les calculs, on pouvait faire quelque chose, on devait faire quelque chose. Il faut donc surveiller et contrôler encore plus intensément le risque, soumettre le maximum d'incertitude au projet de prise en charge par les experts attitrés de la gouvernance actuarielle. Un autre argument avancé par Rose est que la gestion du risque ne concerne plus seulement les populations ciblées, mais les experts et les décideurs eux-mêmes. Rose rappelle, au sujet des psychiatres appelés à se prononcer sur le niveau de risque de leurs patients, qu'ils faisaient preuve d'une prudence excessive. De ce strict point de vue de la gestion du risque réputationnel, il est censé, pour toute personne ou organisation tenue pour responsable de la sécurité des enfants, de recommander des mesures exagérément strictes et prudentes. Il ne s'agit évidemment pas de dire que cela est souhaitable. Que les enfants portent un casque ou non, la glissade sémantique entre éduquer et régenter entraîne la chute des organisations vers une conception étroite de la promotion d'un milieu éducatif propice au développement humain. Une telle approche va naturellement à l'encontre des besoins des enfants qui, comme on le sait, et comme l'a rappelé récemment une association de pédiatres, ont besoin de jeux risqués et de rudesse physique pour assurer leur sain développement. A-t-on réellement aujourd'hui besoin d'experts pour nous rappeler de telles évidences? Or, c'est précisément ce type de rapport au monde qui prime toutes les autres considérations. On pourra supposer que, grâce à leurs calculs actuariels sophistiqués, les spécialistes ont établi des recommandations qui seraient susceptibles, sur une base probabiliste, de limiter le plus possible le risque si on les appliquait intégralement sur l'ensemble du territoire québécois. Le paradoxe, souligne Rose, et que cette conception de la gestion des risques entraîne des effets certains sur les gens qu'elle vise. Lorsque des mesures exagérément prudentes sont mises en avant à grande échelle, cela se répercute assurément sur le développement physique, psychique et social des enfants, qui en feront assurément les frais. Subjectivité. Cette logique, cantonnée en principe au monde assurantiel, ne devrait jamais s'immiscer dans le lien qu'entretient le personnel scolaire avec les élèves. Rose observe qu'une telle logique, par son influence historique et culturelle, finit toutefois par s'implanter à travers la transformation et la subjectivité professionnelle. Selon son propos, adapté ici pour nos besoins, c'est l'éducateur, pris à titre individuel, qui doit placer l'évaluation et la gestion du risque au cœur de ses obligations. Devant rendre des comptes à la fois aux parents, de plus en plus intolérants eux aussi au risque, et à leurs gestionnaires, de plus en plus soucieux de diminuer tout risque réputationnel ou de litige, les éducateurs doivent justifier leur opinion professionnelle à la lumière de l'exigence de réduire au maximum le risque et d'accepter la responsabilité, voire le blâme, si un incident imprévu survenait. La profession enseignante participe certes à une surenchère sécuritaire depuis quelques années. Il serait toutefois trop facile et injuste de lui imputer l'entièreté de la faute. Des forces systémiques, touchant à la fois la culture ambiante et le fonctionnement des institutions, lui enjoignent de se plier à une telle logique, voire de l'intérioriser, de la greffer de façon plus ou moins heureuse à sa subjectivité professionnelle. Elle finit par miner l'exercice traditionnel de la raison pédagogique. Elle effrite du même coup son ascendant symbolique, ajouterons-nous, reléguant l'activité du corps enseignant au statut de mise en place compétente de techniques et de protocoles élaborés au-dessus de lui par des forces culturelles et institutionnelles incompatibles avec la mission civilisatrice de l'école. C'était « La pente glissante de l'éthique préventionniste », un texte de Jean-Nicolas Carrier, publié le 10 janvier 2026 dans Le Devoir.
L'IA est mise au service de la lutte contre le décrochage scolaire. Mais à quel prix? Un texte de Zachary Goudreau, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir. À l'initiative de Québec, un système d'intelligence artificielle, IA, destiné à déterminer les élèves à risque de décrochage scolaire, a été implanté dans la majorité des écoles de la province. Or, un peu plus d'un an après le début de son arrivée dans le réseau, cet outil continue de soulever des questions éthiques et des inquiétudes tant de la part d'experts que de parents. Certains envisagent même un recours judiciaire contre Québec. C'est un outil prédictif développé quelques années plus tôt par une entreprise privée pour le compte du Centre de services scolaires du Val-des-Serres en Estrie qui a incité Québec à conclure en 2022 un contrat avec le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec afin d'évaluer la perspective d'étendre l'utilisation d'un tel système d'IA ailleurs dans le réseau scolaire. Certains milieux scolaires ont ensuite été ciblés pour tester une nouvelle solution d'IA, générant des indicateurs évaluant le risque de décrochage des élèves à partir de plus de 80 données personnelles, y compris leur âge, leur genre, leur statut d'immigration et le niveau de scolarité de leurs parents. Au terme de ces essais, ce système, développé par l'État et un organisme nommé GRICS, G-R-I-C-S, a été implanté dans un nombre croissant d'écoles de la province à compter de l'automne 2024. Ainsi, 52 centres de services scolaires, CSS, et commissions scolaires, sur un total de 72, ont actuellement recours à cet outil, dont le déploiement a coûté 3 millions de dollars à Québec, a confirmé au Devoir le ministère de l'Éducation. La solution est un outil de prévention et de soutien. L'objectif est d'identifier les facteurs de risque des élèves afin de permettre aux professionnels de décider de l'aide à apporter aux élèves à risque de décrochage sans créer de stéréotypes négatifs, indique par courriel le directeur des communications du ministère, Brian Saint-Louis. Biais et faux positifs. Or, au moment où l'IA prend d'assaut les écoles et les cégeps, au nom de la lutte contre le décrochage scolaire, de nombreux experts lèvent des drapeaux rouges. On déploie ce système-là comme si c'était banal, alors que ça ne l'est pas du tout, lance Ève Gaumont, doctorante en droit à l'Université de Montréal, qui s'est intéressée de près au développement de cet outil. Car des risques à l'utilisation de cette technologie, il y en a beaucoup, confirme Simon Collin, professeur au département de didactique de l'UQAM, dont les recherches s'intéressent notamment aux enjeux éthiques liés à la présence de l'IA dans le système d'éducation. Une revue systématique de la littérature scientifique sur cette question qu'il a réalisée en 2023 avec deux autres chercheurs aborde d'ailleurs le risque qu'un système de prédiction du risque de décrochage scolaire commette des erreurs en raison de biais qui peuvent mener à des discriminations à l'endroit de certaines populations d'apprenants, par exemple les élèves membres de minorités visibles. Ces biais peuvent alors mener à un algorithme à prédire qu'un élève est à haut risque de décrochage alors qu'en fait il ne décrochera pas, poursuit le professeur Collin, qui qualifie ces situations de « faux positifs ». Une perspective qui n'est pas à prendre à la légère, puisque les indicateurs ont le potentiel de faire diminuer de façon inconsciente les attentes d'une école et de son personnel à l'égard de l'élève évalué à risque d'abandon, poursuit l'expert. Devant un élève à risque élevé, documenté par l'IA, le personnel scolaire pourrait-il, de bonne foi mais épuisé et débordé, en venir à consacrer le peu de temps qu'il lui reste aux étudiants, qui ont une chance de réussir, selon les calculs de l'outil technologique, se demande ainsi Vincent Deneau, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ce dernier a effectué plusieurs demandes dans les derniers mois auprès du ministère et du CSS de son enfant pour tenter d'obtenir des réponses satisfaisantes à ses questions. En vain. Pas de porte de sortie. À l'hiver 2024, une mère de famille a d'ailleurs eu la mauvaise surprise de voir son CSS refuser de retirer à sa demande les données personnelles de son fils de ce système de détection des risques de décrochage scolaire. Avec l'aide d'Ève Gaumont et de l'avocate Valentine Godard, experte en gouvernance de l'IA, elle a ensuite interpellé le ministère de l'Éducation. Ce dernier a lui aussi refusé d'acquiescer à sa demande, faisant valoir que le retrait des données de certains élèves de ce système pourrait affecter la qualité des résultats et entraîner des biais dans le modèle d'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça choquant qu'on réponde à un parent que ses droits sont limités au bénéfice d'un outil d'IA, se rappelle Mme Godard. Elle a alors interpellé le protecteur du citoyen, qui l'a référé à la Commission d'accès à l'information qui analyse actuellement ce dossier. S'il n'y a rien d'autre qui bouge, cette affaire pourrait se rendre en cour supérieure, affirme Mme Godard. Elle et Ève Gaumont mobilisent d'ailleurs des parents, notamment via une pétition en ligne, afin de réclamer un moratoire sur l'utilisation de ce système le temps qu'une évaluation des risques soit réalisée et rendue publique, mais aussi que les tribunaux se soient prononcés sur le droit des parents de s'opposer à la participation de leur enfant à ce dispositif. Le ministère de l'Éducation rappelle pour sa part que les parents concernés sont informés que les informations personnelles recueillies lors de l'inscription et du parcours scolaire de leur enfant peuvent être utilisées dans ces outils, conformément aux lois en vigueur. Il est important de noter qu'aucune nouvelle donnée n'est collectée aux fins de l'utilisation de cet outil, qui génère ses indicateurs sur la base d'informations personnelles déjà à la disposition du réseau scolaire, conclut le directeur des communications, Brian Saint-Louis. C'était « L'IA est mise au service de la lutte contre le décrochage scolaire. Mais à quel prix? » Un texte de Zachary Goudreau, paru le 14 janvier 2026 dans Le Devoir.